nature se révèle à nous. Une émission de la Bonafama sur la santé au naturel et l'exploration du monde végétal. Alors bonjour, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue sur RDIWA 107.5 FM. Je m'appelle Gis et voici la première interview d'une nouvelle émission de la radio. C'est une émission sur les plantes et la santé, intitulée « Les plantes se révèlent à nous ». Donc c'est proposé par la Bonafama. Alors la Bonafama, c'est un groupe de personnes qui organise des conférences, des ateliers autour des plantes médicinales et de la santé. Les ateliers ont lieu un mercredi sur deux, donc le prochain ce sera le 27 janvier, puis le thème vous sera prochainement transmis par des petites affichettes et des flyers un peu de partout. Et le prochain, le 10 février, ce sera sur Fabrique ton remède. Donc l'idée c'est qu'on recherche ensemble comment remédier à une difficulté personnel, voilà, chacun peut partager ses difficultés, puis on fabrique ensemble un remède. Et les ateliers ont lieu à Andarta, donc à Die, à partir de 14h jusqu'à environ 17h. La Bonafama a aussi un centre de documentation avec des revues et des livres donc traitant de la nature, de la santé, de l'écologie. Ce centre de documentation est en ce moment même au CFPPA de Die. Donc à partir de début février, excusez-moi, eh bien vous pourrez emprunter les documents. Voilà, et donc, pour ce lancement, j'ai le plaisir de recevoir Rina Nissim. Bonjour, bonjour Rina.
Bonjour à toutes.
Alors nous allons avoir donc un échange par téléphone. Alors, je t'ai vu l'année dernière donc lors d'une conférence organisée par la Bonafama. Et je sais que tu es naturopathe, spécialement en ce qui concerne la phytothérapie, la nutrition et l'homéopathie, et que tu travailles exclusivement, il me semble, auprès des femmes et de leur santé depuis plusieurs années. Tu as commencé dans les années 70, et je voulais te poser une question. À travers tes expériences, comment perçois-tu les changements de rapport des femmes avec leur corps?
Ma foi, je travaille en effet depuis quelques 35 ans et plus. Dans les années 70, c'était une période de lutte avec le mouvement de libération des femmes pour la réappropriation du corps, pour l'accès à la contraception, pour l'accès à l'avortement dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, bien que ces choses soient accessibles, les problèmes se posent toujours dans les mêmes termes. Les femmes jeunes, quand elles doivent entrer dans l'âge adulte, découvrir la sexualité, ça reste toujours quand même une chose difficile. Il y a toujours quand même autour de tout ça des tabous, il y a toujours des normes sexuelles qui sont quand même assez pesantes. Et malheureusement, je crois que les femmes doivent encore aujourd'hui lutter pour leur autonomie et que le processus de réappropriation de son corps est encore un chemin à découvrir et à devenir. Donc je ne suis pas sûre qu'il y a eu énormément de changements. Pour ce qui est des lois, oui, évidemment, on a l'accès à l'avortement avec un remboursement qui nous est d'ailleurs contesté régulièrement par l'extrême droite. Oui. Et il faut leur tenir tête. Les changements sont peut-être là.
Oui, c'est par rapport aussi aux changements au niveau aussi de la sexualité, enfin la libération à ce niveau-là, du rapport homme-femme du coup. Et est-ce que tu sens qu'il y aurait peut-être plus aussi du coup d'intimité dans les rapports et du coup quelque chose de plus détendu?
Non, malheureusement, je regrette, mais je n'y crois pas. Il n'y a pas vraiment eu de libération. Enfin, si, il y a eu une libération dans les années 70 qui s'est bien développée sur les années 80. Les femmes ont acquis un certain nombre de droits. Elles sont rentrées dans le marché du travail. Elles ont essayé d'entrer un peu en politique. Elles ont essayé de prendre leur place dans la société. Mais malheureusement, nous sommes en plein recul par rapport à ça. C'est-à-dire que la situation économique s'est durcie. L'extrême droite et les islamistes fondamentalistes essayent de faire rentrer les femmes à la maison, dans leur cuisine, à s'occuper de leurs enfants. Et en fait, de libération, non. On est dans une période où les préjugés et les normes, entre autres sexuelles, sont tout à fait fortes. Et je ne pense pas qu'on soit dans une période où les rapports hommes-femmes soient tellement détendus et libres. Malheureusement, même dans les milieux de gauche ou dans les milieux libertaires, on découvre qu'il y a de la violence contre les femmes. Et ce n'est pas chose facile. Donc je pense malheureusement que les rapports hommes-femmes restent dans une dynamique de dominant-dominé et que le chemin est encore à faire.
Ouais, c'est vrai que ça dépend aussi dans quel milieu on peut vivre. On peut avoir cette impression-là. Après, c'est peut-être une réponse à un niveau global, comme tu vois pas mal de personnes.
Mais en effet, les étudiants, quand ils vivent un peu en collectivité, quand ils sont en période d'études, ils ont l'impression que ça y est, ils ont atteint à peu près l'égalité, que les choses conviennent. Quand ils rentrent dans le monde professionnel, ils se rendent compte que ça se complique sérieusement. Et quand la femme a son premier enfant, ça se complique sérieusement aussi. Parce que là, le partage devient plus complexe. Donc il y a des pressions qui viennent du monde de l'emploi, qui conditionnent notre façon de vivre, et il y a des qui se reproduisent donc sur les hommes et sur les femmes. On dit aux hommes, si vous voulez progresser dans votre carrière, faut arrêter de faire du mi-temps pour vous occuper de vos enfants, faut faire du plein temps, sinon vous progresserez pas. Et du côté des femmes, quand elles ont leurs enfants, elles sont quand même obligées de s'en occuper. Dans beaucoup de milieux, ça entraîne quand même une perte de contact avec le milieu social, plus de difficultés au niveau professionnel. Et malheureusement, la violence contre les femmes, je vous prie de m'excuser, mais elle est dans tous les milieux sociaux. Mmh. Aucun milieu peut dire qu'il n'en a pas dans son milieu, sinon c'est qu'ils ne veulent pas les voir.
Oui. Ou c'est qu'ils appellent pas ça de la violence après, parce que c'est vrai que ça dépend. Il y a des sortes de violences qu'on ne perçoit pas comme telles parce que ça fait pas des bleus, mais...
L'imposition de rapports dont on ne voudrait pas, ça s'appelle le viol, par exemple.
Justement, par rapport à cette image de la femme, j'ai demandé à des femmes autour de moi, sachant qu'on allait se rencontrer, pour savoir si elles avaient quelques questions sur la féminité. Et il y a une jeune femme qui a abordé cette question autour de l'image de la femme. En fait, c'est par rapport à son neveu adolescent qui vit beaucoup avec Facebook et où la femme est vue comme un objet sexuel. Les jeunes filles adolescentes, en plus, marchent vraiment dans ce rôle-là parce que, il y a le culte de l'apparence, de l'image sexy. Et elle voulait savoir ce que tu en pensais, en fait, donc par rapport à ces nouveaux médias. Et puis aussi, s'il y avait un ouvrage ou un film que tu connaissais pour les ados qui parlerait de la sexualité, du respect de soi, des autres. Et voilà, qui serait plutôt un ouvrage vraiment à destination des ados, donc plutôt, on va dire, fun.
Alors, en effet, je pense que les stéréotypes restent quand même assez puissants dans la manière dont les jeunes filles sont éduquées par rapport à la manière dont les garçons sont éduqués. Il y a encore des différences importantes. C'est vrai qu'on laisse plus facilement passer une certaine autorité à un garçon et une fille est plutôt censée séduire. C'est des choses qu'on a du mal à changer, que les parents ont du mal à changer dans leur façon d'être avec leurs enfants. Et c'est sûr que pour une jeune fille qui rentre en adolescence, sa crainte profonde d'être seule, de ne pas plaire, de ne pas être choisie, peut en effet la pousser à essayer de paraître séduisante. S'ajoute bien sûr là-dessus toute la publicité, toute la mode qui est quand même extrêmement envahissante, toutes ces images qui sont dans les rues, qui sont dans tous les médias de corps de femmes complètement refaits. Donc toutes ces images de femmes qu'on voit dans la publicité sont des photos qui sont retravaillées, les yeux sont écartés, sont agrandis, la bouche est agrandie, les jambes sont allongées, etc., etc. Donc c'est des beautés qu'on n'atteindra jamais, qui augmentent nos complexes et notre difficulté de nous accepter tels que nous sommes. Et avec la crise d'adolescence, que vivent d'ailleurs aussi les garçons, donc cette peur de ne pas rencontrer l'autre, de ne pas être choisi, de ne pas être aimé, elle n'est pas vécue tout à fait de la même façon par les garçons et par les filles. Alors, malheureusement non, j'ai pas de film à proposer, mais si je puis me permettre, j'ai mon propre ouvrage, La sexualité des femmes, à raconter aux jeunes et aux moins jeunes convient tout à fait pour des ados comme pour des femmes dans d'autres groupes d'âge, justement pour essayer de comprendre ce que c'est que la sexualité féminine, comprendre qu'elle n'est pas exactement la même que la sexualité masculine, afin de s'affirmer, d'être capable de demander ce qu'on voudrait et pas être seulement dans l'adaptation de faire plaisir à l'autre de peur de le perdre.
Oui.
Et là, je pense que voilà, c'est une chose qui peut être utile aux ados que je peux conseiller.
Oui. Et puis aussi peut-être en amont, à quel moment aussi commencer à parler des rapports de petits garçons, petites filles. Déjà, j'ai l'impression que maintenant les jeunes sont ados à partir de 11-12 ans, c'est une pré-adolescence. Et du coup, est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'il est déjà bon de commencer à parler de sexualité, une sexualité bien sûr adaptée à leur âge?
Mais je crois qu'on peut parler de sexualité à tout âge. Il s'agit surtout de répondre aux questions des enfants. Ils posent des questions beaucoup plus tôt que 11 ans. Mmh. La préadolescence, à 9 ans, enfin, à toutes sortes d'âges, les enfants peuvent avoir des questions. Et je pense qu'il faut chaque fois répondre à leurs questions. C'est en général comme ça que c'est le plus simple. Il ne s'agit pas d'avancer leurs questions, mais bien de les accompagner. Et je pense que la première chose dont il faut parler avant la sexualité, c'est l'apparition des règles. Mmh. Et je pense que pour les fillettes, c'est extrêmement important de reconquérir une certaine fierté par rapport au cycle menstruel qui va s'installer, de sorte qu'elle ne le soit pas vécue comme une chose qui est que désagréable. C'est vrai que dans le vocabulaire de beaucoup de femmes, les règles, c'est vécu comme quelque chose de désagréable, c'est les brinques, c'est les emmerdes, il y a toutes sortes de mots de connotation plutôt négative par rapport aux règles. Et je pense qu'une des choses pratiques à faire avec des fillettes, c'est justement de reconquérir un plaisir et une bonne compréhension du fonctionnement des règles. Il y a des groupes de femmes qui proposent ça, et ça s'appelle le cyclo-show, où on fait tout un jeu autour d'un utérus qui serait par terre en tissu, puis on joue, on apprend comment ça marche, l'œstrogène, progestérone, l'ovulation, l'éventuelle fertilisation ou pas, les règles ou pas, etc. Donc d'en faire une activité ludique, positive, de sorte que les règles soient accueillies d'une façon également positive. Parce que sinon, ce que la médecine moderne occidentale nous propose, c'est plutôt la suppression des règles. Donc la tendance maintenant serait plutôt de proposer la pilule assez rapidement, éventuellement même sans interruption. On devrait fonctionner comme des hommes sur le marché de l'emploi, donc ne jamais avoir de règles ou de jours où on est peut-être moins apte à travailler que d'autres jours. La norme est donc bien masculine.
Oui.
Et on pourrait évoluer également vers une contraception de type injectable, voire même un plan, avec une suppression complète des règles, et à avoir l'impression que ce serait une libération et un progrès d'avoir un corps fonctionnant comme un corps masculin, ayant supprimé tout ça, et percevoir un fonctionnement comme un ordinateur. Là, on met en marche, il y a comme un bouton, on met on, off, et puis voilà, le jour où on voudra remettre tout ça en marche, et pour une éventuelle grossesse, et ben, ça devrait marcher nickel chrome et sans poser de problème. Donc je pense que c'est peut-être ça la première chose, c'est de retrouver une fierté par rapport à ses règles et par rapport à un fonctionnement physiologique de la jeune fille, avant même de parler de sexualité.
Oui.
La sexualité, elle suivra évidemment dans toutes les questions que les jeunes pourraient avoir. Et là, je pense que le plus important, c'est la fierté de soi-même, la confiance en soi, la capacité de demander ce qu'on veut quand on le veut, ne pas s'adapter qu'aux besoins de l'autre, être capable de dire oui, être capable de dire non, à expliquer aussi aux garçons que le non existe. Je veux dire que le fait de porter une mini-jupe moulante sexy, ça ne veut pas dire qu'on est baisable tous les jours du mois et tous les mois de l'année. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont importantes à expliquer pour construire des rapports sains entre jeunes adultes par la suite.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une première... Une première acceptation de son rythme, de son corps et de l'écoute de soi. Enfin, c'est vrai que pour les femmes, c'est aussi quelque chose qui passe par là. Il y a tout un, c'est une phase, comment on dit, voilà, c'est l'entrée un peu dans le monde des femmes peu à peu. Et c'est aussi là ce qui me vient. Après, il y a vraiment le corps qui change et on est on est face à quelque chose qu'on doit accueillir et c'est pas rien. Et justement, par rapport à cet accueil, il y a une des jeunes femmes aussi qui me posait la question. Est-ce que tu as constaté comme efficace, donc durant ton expérience, qui pourrait faire du bien par rapport aux maux de ventre, aux inconforts, aux sautes d'humeur liés à l'attente des règles, comme elle s'exprime?
Alors en effet, pour beaucoup de femmes, les jours avant les règles, il peut y avoir quelques symptômes désagréables. On regroupe ça volontiers sous le nom de syndrome prémenstruel. Ça comprend les seins tendus, les ballonnements, une éventuelle constipation, des douleurs éventuellement, et puis ensuite les règles vont se déclencher. Généralement, quand même, 24 heures après la chute hormonale dans le sang. Donc souvent, les deux jours avant les règles, les femmes sont déjà assez irritables, elles peuvent éventuellement se précipiter sur le chocolat, avoir des envies particulières comme ça. Et plus le cycle a été congestif et pénible, et plus les règles peuvent être douloureuses après. Donc, pour ces problèmes-là, il y a des choses à proposer au niveau alimentaire déjà. C'est-à-dire que la semaine avant les règles, on devrait alléger un petit peu l'alimentation, essayer d'éviter la constipation avec une alimentation avec plus de fruits, plus de légumes, moins de protéines animales, essayer d'éviter le fromage le soir ou les choses lourdes, de sorte qu'il n'y ait pas une constipation qui s'installe avec, et que ça aggrave encore cette rétention. Après, il y a des propositions qu'on peut faire au niveau hormonal, c'est-à-dire que souvent, dans ce syndrome qu'on décrit, on a en fait trop d'œstrogènes, pas assez de progestérone, les femmes s'auto-intoxiquent avec leurs propres hormones en fin de cycle, car leur foie patine un peu et ne parvient plus à éliminer les hormones au fur et à mesure. Donc les choses qu'on peut proposer, c'est des régulateurs hormonaux, des plantes comme le framboisier ou comme le cassis, qu'on peut prendre en macérat glycériné, 40 gouttes le matin à jeun, ça se prend entre les règles. Et puis on peut également soutenir le foie, c'est-à-dire on peut aider plantes comme le pissenlit ou le romarin, l'artichaut, l'olive, le radis, donc des plantes, si vous voulez, qui aident le foie à mieux faire son travail. Ça peut contribuer également à une très bonne amélioration de ses symptômes. Et puis enfin, l'apport en vitamine E et F, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les acides gras polyinsaturés, ça veut dire les huiles pressées à froid qui sont riches en vitamines et qui ont donc été pas chauffées au moment de la presse, ni au moment de les consommer, évidemment. Et donc, par exemple, de l'onagre ou de la bourrache en supplément alimentaire peut aider à faire diminuer ces symptômes. Donc, en 2-3 cycles, entre des petites plantes régulatrices hormonales, un petit complément en vitamine E et F, et puis une petite amélioration au niveau alimentaire, on doit arriver à se débarrasser de ces symptômes.
Parce que ce moment, en fait, de règles est aussi un témoignage des 3 semaines aussi passées avant, au niveau aussi émotionnel, j'imagine, et aussi d'une alimentation vraiment plus régulière. C'est aussi
ça, les règles sont le reflet de comment le cycle s'est déroulé. Si le cycle s'est bien déroulé, qu'il n'y a pas eu trop de stagnation, qu'il n'y a pas eu trop de rétention, les règles, évidemment, se passeront aussi plus confortablement. Maintenant, évidemment, il y a aussi l'aspect émotionnel qui vient là derrière. C'est sûr que certaines fois, des femmes peuvent avoir des désirs clandestins d'être enceintes sans se l'avouer et peuvent vivre, évidemment, les règles comme une déception. Et elles peuvent être aussi plus douloureuses dans ce contexte. Et en fait, elles ont un désir de grossesse non avoué. Et évidemment, ça peut être une déception que les règles surviennent. Et ça peut aussi expliquer une partie des douleurs qu'on peut ressentir. On est quand même des êtres complexes, si vous voulez. Il y a des aspects tout à fait mécaniques, hormonaux, alimentaires, mais il y a aussi des aspects émotionnels, parfois, qui viennent se greffer dessus et qui compliquent un peu la donne.
Oui. Justement, par rapport aux règles, il y avait aussi cette question, que faire avec le sang? Alors moi, j'avais entendu qu'il était bon de le mettre dans son jardin, dans son potager. Ça mettait du yin dans les légumes qui allaient pousser. Et pourquoi pas, quoi? C'est vrai que c'est aussi plein de bonnes vitamines, ça c'est riche. Et puis aussi, elle me disait que certaines le boivent ou alors le conservent pour mettre sur des fractures ouvertes. Alors voilà, qu'est-ce que tu penses déjà de ça? Et puis est-ce que tu...
Non, je prendrai pas la question de sang, je prendrai d'abord de comment on les récolte, les règles, déjà au niveau de son hygiène, je crois que c'est la question la plus importante. Donc je pense qu'il est important de dire à toutes les femmes que les Tampax qui sont en vente sur le marché sont des produits qui sont finalement assez agressifs. Les fibres sont synthétiques. Il y a des produits à l'intérieur, des absorbants. Et donc, en fait, on a eu des accidents parfois avec ces Tampax. Si la muqueuse sèche, parfois les Tampax peuvent agresser la muqueuse et créer des symptômes désagréables. Il y a également même eu des chocs toxiques, ce qui était quand même assez important. Donc, en fait, il faut peut-être dire au niveau de la récolte des règles que les Tampax ne doivent être employés que chez des femmes qui ont des règles vraiment très abondantes et uniquement ces jours-là, mais que pour la suite, et les celles qui n'ont pas des règles trop abondantes, il serait préférable d'employer une protection externe qui, bien sûr, demande l'hygiène de nettoyer régulièrement pour les sécrétions qui pourraient être collées contre les poils, mais qui néanmoins ont quand même l'avantage de protéger le vagin et donc la flore et tout ça. Il y a des femmes qui emploient des petites copes, un petit dispositif qu'on peut mettre dans le vagin qui permet de récolter les règles, une sorte de cape ou de diaphragme, et donc ça on pourrait éventuellement le rincer et le remettre à sa place. Ce genre de dispositif convient bien à des femmes qui ont des règles pas trop abondantes, justement, parce que sinon ça risque de déborder. Il y a également des éponges marines, mais il faut que ce soit des éponges qui soient vraiment tout à fait propres et qu'il n'y ait pas de sable à l'intérieur, qu'il n'y ait pas des petites aspérités qui pourraient à nouveau blesser le vagin. Maintenant, il y a des femmes qui pratiquent du yoga et qui arrivent même à contrôler à quel moment elles laissent le sang sortir ou à quel moment elles ne le laissent pas sortir, mais c'est quand même des créatures assez exceptionnelles, soyons honnêtes, on n'a pas tout le contrôle de ces sphincters d'une manière aussi subtile. Quant à ce qu'on en fait, j'ai pas vraiment de proposition à faire sur cette question. C'est vrai que si on est en zone rurale, on peut peut-être dire oui, le retour à la terre, c'est une bonne chose. Quant à la consommer, non, je pense pas que ce soit un conseil particulièrement émancipateur et sain. Il existe par contre une proposition par rapport aux urines de boire une petite quantité d'urine le matin. Ouais. C'est une forme d'auto-vaccin. Il y a une méthode en fait en Inde de nettoyage du corps par rapport à ça. Mais je crois que par rapport aux règles, j'ai jamais véritablement entendu ça, donc je me préoccuperai plutôt de les récolter d'une manière saine, qui ne nuit pas au corps. Et après les règles, on peut toujours penser éventuellement, si on a un petit peu tendance aux infections ou si on a des odeurs qui sont pas toujours très bonnes à la fin des règles, à remettre une flore normale, c'est-à-dire des lactobacilles qui habitent normalement dans le vagin, parce que les règles ont un petit peu trop nettoyé, si vous voulez, la zone, et ça pourrait être assez propice à des infections, par exemple des mycoses ou d'autres infections. Donc pour les femmes qui ont des odeurs un petit peu en fin de règles, remettre une flore normale serait un geste très positif.
Et de quelle manière ?
J'ai pas entendu la question.
De quelle manière ?
En employant des yaourts actifs, par exemple. Hein, un yaourt actif, donc c'est un yaourt dans lequel ces lactobacilles sont vivants et vont permettre de faire redémarrer une nouvelle série de yaourts où il existe sur le commerce des lactobacilles sous forme de gélules qui sont faits ou pour être employés par la bouche pour remettre une flore normale dans les intestins. Et il existe également des gélules qui fondent au niveau du vagin. Donc il faut bien demander au pharmacien si c'est une forme de gélule qui peut fondre au niveau du pH vaginal. Et on en pousse un le soir au fond du vagin. On fait ça deux soirs de suite et c'est suffisant.
D'accord. Et cette même personne donc qui me demandait que faire avec le sang des règles, elle me demandait aussi que faire avec le placenta. Elle-même, après un accouchement, elle a gardé un petit bout de placenta dans de l'alcool. Et du coup, elle voudrait savoir comment procéder pour l'utiliser.
Alors, avec le placenta, on peut faire des choses, en effet. À part l'enterrer et le rendre à la nature. On peut en homéopathie, à partir du placenta, faire des dilutions homéopathiques qu'on pourrait utiliser après pour le bébé pour stimuler son immunité cellulaire. Mais je crois qu'il faut faire ça avec un laboratoire homéopathique. Je pense pas qu'on puisse se lancer dans ce procédé toute seule.
Et suite aussi à un accouchement, quelqu'un me demande, voilà, elle a des fuites urinaires. Et plus des infections urinaires. Donc elle demande s'il y a des solutions à l'aide de plantes.
Alors, les fuites urinaires ont à voir avec le suite à l'accouchement, avec le fait que la tête est descendue par le vagin, donc il y a eu toute une anatomie qui a changé là-bas en bas. Les fuites urinaires devraient être rattrapables par la rééducation du périnée. Mmh. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire avec les sages-femmes, qu'on peut faire avec d'autres personnes également. Donc des exercices qu'on apprend à faire et qui permettent de récupérer donc ces sphincters, d'être en contact avec ces sphincters, d'être capable de différencier le méa urinaire du vagin, du rectum, pour retrouver donc d'une part une meilleure continence, mais aussi éventuellement une sexualité plus intéressante. Quant à la question des infections, c'est une toute autre question. Elles surviennent également en dehors du contexte de la grossesse et de l'accouchement. Et là, on a affaire à une problématique qui est multifactorielle, comme toujours. Donc, il y a des raisons bactériennes, il y a des raisons hormonales, il y a des raisons environnementales, éventuellement des choses liées à l'alimentation, de nouveau des choses liées au contexte émotionnel, si vous voulez. Donc, pour en donner un résumé, je pourrais dire qu'il faut revoir l'alimentation, la question de l'équilibre acide-base, s'assurer qu'on n'a pas trop d'aliments générateurs d'acide par rapport aux aliments générateurs de base. Le bicarbonate de soude peut aider à cela si on a besoin de tamponner les excès d'acidité. Boire beaucoup, de sorte qu'il n'y ait pas de stagnation. Toutes les eaux qui stagnent risquent de s'infecter. Donc, ensuite, il y a des plantes, évidemment, qu'on peut employer. Donc, il y a des plantes qui sont désinfectantes et diurétiques. Par exemple, l'érelle et la myrtille, qui sont des plantes très intéressantes. Ne vous intéressez pas trop à la canneberge. Hein. Ça vient des États-Unis et ça vient par avion. Sur le plan du bilan écologique, c'est pas glorieux. On a l'érelle et la myrtille chez nous, ça fonctionne très bien, merci. Après, on a des plantes plus désinfectantes, si vous voulez, comme les huiles essentielles, qu'on emploie donc diluées à 10%, qu'on prend par la bouche, comme par exemple le Melaleuca alternifolia, le tea tree, ou bien d'autres plantes, la cannelle également convient bien. Après, il y a la question des régulateurs hormonaux. Est-ce que les femmes se plaignent d'infections particulièrement après les règles, ou est-ce qu'il y a un lien avec le cycle, quelque chose qui nous fait penser que le jeu hormonal pourrait avoir une importance. Voilà, il faut pouvoir jouer un petit peu sur tous les tableaux. Ça peut nécessiter un accompagnement. Peut-être qu'on n'arrive pas à faire tout ça en automédication. Bon, il y a toujours mon bouquin, hein, le Mama Mélis, le manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes, dans lequel vous retrouverez toutes ces propositions assez précises. On peut peut-être faire une partie en automédication ou avec l'aide de copines au sein d'un groupe. Et puis si c'est insuffisant, on peut éventuellement avoir recours à une personne qui est un petit peu plus habituée à l'usage de tout cela et qui nous apprend à comment employer ces plantes, ce qui nous permettra peut-être à nous, après, à apprendre à d'autres femmes à faire de même.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi pas forcément évident de conseiller aussi sur des choses comme ça globalement, alors que c'est vraiment du cas par cas, et c'est justement ce qui est bon dans cette façon d'aborder la médecine, qui n'est pas c'est une douleur, et puis pour 150 femmes il va y avoir la même réponse. C'est vraiment selon à chacune son environnement, ses émotions, sa famille, son histoire, sa manière déjà d'exprimer aussi la chose. C'est pour ça que j'ai vraiment même écrit au plus juste de ce qu'on m'avait dit, parce que selon les mots aussi qu'on emploie pour exprimer sa difficulté, là ça démontre déjà comment on se situe par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident là de répondre d'une manière générale pour tout ça.
C'est sûr qu'on aimerait arriver à un traitement individualisé, on aimerait arriver à quelque chose qui tienne compte de ce que vit la femme, des émotions qu'elle pourrait avoir dans la problématique des infections urinaires. Est-ce qu'au niveau du territoire, elle est confortable avec un bébé, au niveau du couple, au niveau de l'intimité, est-ce que les choses sont confortables pour elle? Il faudrait pouvoir lui donner l'occasion d'exprimer les choses qu'elle ressent. Maintenant, dans les préparations à base de plantes, si vous voulez, dans le Mama Mélis, il y a des choses qu'on peut très bien faire par soi-même en automédication. Par exemple, ce dont on a parlé tout à l'heure, le syndrome prémenstruel, les règles douloureuses, là je pense que c'est des choses qu'on peut assez facilement essayer par soi-même. Voilà, on a quand même les cycles qui se répètent, donc on a l'occasion de voir si ce qu'on a mis en place ça fait une amélioration ou pas. Dans le cadre d'une infection, évidemment, il faut quand même se mettre des garde-fous. Ça veut dire on peut essayer des choses, on va dire peut-être pendant 2-3 jours, et si ça ne marche pas, après il faut quand même consulter, faire une culture et on peut éventuellement des antibiotiques, parce que il faudrait pas non plus aller jusqu'à une infection haute, une infection qui prendrait les reins, ça serait quand même fâcheux. Rappelons également qu'une femme porteuse de stérilet peut moins faire ce type d'expérimentation, parce que la présence du stérilet est déjà une inflammation, et donc les infections vont se développer plus volontiers. Donc chez elle, il faut qu'elle se fasse des tests avec une limite assez courte et qu'elle recourt plus rapidement à des méthodes allopathiques si ça ne fonctionne pas.
Mmh. Oui. Et une dernière question par rapport aux accouchements aussi. À ton avis, de ton expérience, comment préparer au mieux un accouchement à domicile par rapport aux plantes, à la nourriture, au massage, au bain?
Donc la première question par rapport à un futur accouchement, c'est déjà de se décider dans quel contexte on pense qu'on sera le plus à l'aise pour accoucher. Oui. Ça peut être le domicile, mais pas forcément. Ça peut être une maison de naissance, si ça existe dans sa région. Ça peut être un hôpital, ça peut être une clinique. C'est à chacune de voir dans quel lieu elle estime qu'elle se sentira le plus à l'aise et quel type de risque elle se sent prête à assumer en étant à l'aise avec cela. Donc je dirais, il ne faut pas placer l'accouchement à domicile comme une nouvelle norme et forcément comme le nec plus ultra. Je crois que pour certaines femmes, un accouchement en milieu institutionnel est plus sécurisant. Peut-être qu'elles parviennent, si l'accouchement s'est bien déroulé et qu'elles n'ont pas d'autres enfants à la maison, à rentrer ensuite à la maison et faire les suites de couches à la maison avec une sage-femme qui viendrait les voir. Donc je crois qu'il y a plusieurs solutions possibles et je crois que c'est à chaque femme de voir dans quel contexte elle se sent le plus à l'aise par rapport à comment elle vit sa grossesse, par rapport à comment ça se passe à la maison. Est-ce qu'elle aura de l'aide à la maison dans les jours qui suivront? Est-ce que le partenaire pourra prendre un congé, pourra l'aider? Est-ce qu'une autre femme viendra s'installer avec elle, lui donner un coup de main par rapport aux soins qu'il y aura après? On aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse les courses, qui fasse à manger, qui fasse la lessive et que ça retombe pas tout sur la jeune maman. Donc je crois qu'il faut évaluer chaque situation en prenant compte de tout cela. Quant à la préparation, eh bien, c'est la grossesse qui doit voir déjà comment la grossesse se déroule. Donc, par qui fait-on suivre sa grossesse? Est-ce qu'on fait suivre sa grossesse par un gynéco? Est-ce qu'on a une sage-femme également? Est-ce qu'on a eu l'occasion de faire une préparation à l'accouchement avec une sage-femme, peut-être en groupe? C'est ça les choses qu'il faut préparer à l'avance. Et surtout pour une première grossesse, la question de la préparation à l'accouchement est très importante. Et vraiment faire une préparation en groupe avec une sage-femme, peut-être également en yoga, ou peut-être avec une sophrologue, ou peut-être en aptonomie. Essayer de voir dans sa région quelles sont les aides qu'on pourrait avoir pour la meilleure préparation possible. Parce que, à part l'accouchement à domicile, on peut aussi accoucher dans des très bonnes conditions en milieu institutionnel. On peut faire une très bonne préparation à l'accouchement, faire toutes les premières contractions à domicile, se présenter à l'hôpital avec une dilatation proche de complète. Et là, ils n'ont plus le temps de trop nous médicaliser, donc ils n'ont plus qu'à nous aider à accueillir le bébé. Et les choses peuvent se passer très bien. Maintenant, pour d'autres femmes, la crainte de l'hôpital et de la médicalisation qu'il pourrait y avoir là-bas, des médicaments qu'on pourrait avoir, peut-être un stress supplémentaire, et elles peuvent éventuellement préférer le faire à domicile. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elles aient une bonne sage-femme qui les a accompagnées pendant toute la grossesse. Et quant aux plantes, si vous voulez, je me permettrai de référer le trèfle de vie. Donc le trèfle de vie, c'est cet ouvrage de Susan Weed, qui est une phytothérapeute états-unienne. Donc l'ouvrage est disponible aux éditions Mama Mélis. Et là, on voit un petit peu toutes les plantes avant la grossesse, pendant la grossesse, l'accouchement, les suites de couches. Il y a toutes sortes de choses intéressantes à préparer au niveau des nutriments, des plantes qui nourrissent, donc l'ortie, le framboisier, après tous les remèdes possibles au moment de l'accouchement s'il y a un défaut de dilatation, donc le colophyllum, le simisifuga. Il y a toute une découverte de plantes. La grossesse est une occasion pour découvrir les plantes médicinales et apprendre à les connaître en expérimentant soi-même une partie. Et là, je pense que c'est forcément avec l'aide de quelqu'un. Je pense pas que pour une première grossesse, on va découvrir les plantes et savoir les employer. Je crois que forcément, on va faire ça avec une sage-femme, vraisemblablement.
Mmh. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est aussi bien de resituer, parce que c'est vrai que l'accouchement à domicile, on en parle, enfin, selon le milieu dans lequel on vit, encore une fois, mais on en parle aussi beaucoup, puis ça deviendrait presque une norme, et d'être presque contre ces institutions, et alors que c'est bien de resituer ce côté, de rester en écoute de soi, de ses besoins, et d'être aussi créatif, quoi. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est voilà, c'est des fois un peu des deux, c'est un peu avec autre chose aussi qui vient envelopper tout ça, enfin voilà, d'être de vivre son moment à soi, quoi, selon comment on le sent pour être au mieux. Ouais. Et je te propose une petite pause musicale, donc avec une musique de Tracy Chapman. Alors Ina, je voulais te poser aussi des questions. Donc on a parlé de l'accouchement, mais en amont de tout ça, la contraception. Alors il y a cette question par rapport aux ovules contraceptives naturelles, donc avec des huiles essentielles et des teintures mères. Et cette question, qu'est-ce qui fait qu'elles sont contraceptives? C'est-à-dire que se passe-t-il physiquement?
Non, alors je déconseille formellement d'employer des ovules spermicides comme méthode contraceptive, ouais. Que ce soit avec des huiles essentielles ou des plantes médicinales, ou que ce soit avec des remèdes allopathiques synthétiques. C'est une méthode qui n'est pas assez efficace pour des femmes jeunes en âge de procréer. L'efficacité peut être autour de 60%, c'est absolument négligeable. Le vagin peut avoir des replis et puis un ovule peut se glisser dans un repli, et en changeant de position, le col pourrait être parfaitement accessible aux spermatozoïdes si l'éjaculation avait lieu bien au fond. Donc non, ça me permet une méthode à franchement déconseiller. Les ovules spermicides sont une méthode qui pourrait convenir pour la fin de la vie fertile d'une femme hétérosexuelle, peut-être les dernières années avant la ménopause, quand son cycle est déjà irrégulier et que sa fertilité, on peut considérer qu'elle est déjà passablement diminuée, dans cette période-là, elle pourrait se contenter d'ovules spermicides. Dans la tranche de la vie fertile, disons grossièrement, entre, je sais pas, moi, 17 ans et 47 ans, pour le prendre à la louche, il vaut mieux se fixer sur des méthodes contraceptives plus fiables que cela.
D'accord. Même à des moments de pré-règles, justement, la semaine qui précède.
Non, alors je déconseillerais ça également. Si on veut apprendre à connaître son cycle et à savoir à quel moment a lieu l'ovulation, ça s'appelle la méthode symptothermique. Il y a un enseignement excellent qui se fait aujourd'hui avec cela. On peut apprendre grâce à la glaire cervicale ou grâce à la température ou grâce encore à d'autres points de repère qu'on trouve sur soi-même, apprendre à repérer l'ovulation. Si on a repéré l'ovulation, qu'on est sûr qu'elle a eu lieu, eh bien, il n'est plus nécessaire d'employer d'ovules spermicides. C'est insensé. Je veux dire, l'ovulation a eu lieu, dans un certain nombre de jours, les règles vont revenir. Dans cette période-là, on n'emploie ni préservatif, ni ovules spermicides. On repère l'ovulation objectivement. Si on ne l'a pas repéré objectivement, qu'on ne suit pas son cycle, eh bien, dans ce cas-là, on n'assume pas qu'on est forcément en fin de cycle parce qu'on n'en sait fichtre rien. Et donc, on emploie un préservatif, point barre. Ou un diaphragme, ou une autre méthode barrière. Mais on ne suppute pas. Parce que la supputation, c'est ça qui a fait des millions de bébés. Donc, pourquoi la méthode Gino, ça marchait pas à l'époque? C'est parce que les femmes faisaient des calculs avec des plans sur la comète. Elles disaient, voilà, moi j'ai un cycle de 30 jours, donc je vais ovuler le 16e, et maintenant je suis le 20e, donc c'est passé. Donc, c'est un calcul, c'est une supputation, ça ne vaut strictement rien.
Oui,
ou bien
c'est
on a repéré objectivement l'ovulation, et après 3 jours, on est sûr qu'on n'a plus besoin d'employer une protection, ou bien on l'a pas repéré et on fait pas la baline.
Il peut pas y avoir une double ovulation?
C'est rarissime. C'est vraiment les méthodes de repère de l'ovulation sont en général pas conseillées aux femmes jeunes qui ont encore des cycles très irréguliers, qui sont très impulsives, qui peuvent faire une ovulation surprise sur une émotion, sur une rencontre. C'est des méthodes qui sont en général proposées, si j'ose dire, à des femmes d'âge mûr, un peu qui ont déjà un cycle un peu plus régulier, une vie elle-même plus régulière, peut-être déjà des enfants, peut-être aussi qu'elles accepteraient encore une petite grossesse si elle arrivait par surprise. Voilà, on est dans quelque chose d'un peu plus stable. Et dans ce contexte-là, dans ce groupe d'âge dont je vous parle, la trentaine, où on commence déjà à bien connaître son corps, où ça commence à rouler, quand une ovulation a lieu, il est invraisemblable qu'on ait une deuxième.
Alors, deux questions par rapport aussi à la ménopause et donc les fameuses bouffées de chaleur. Donc, comment remédier?
Alors, la ménopause, c'est une période de grand chambardement, c'est une période où les hormones se retirent petit à petit, et donc elles vont pas le faire discrètement et en toute élégance. Parfois, elles vont le faire avec des à-coups. Il y a des moments où il y en aura trop, des moments où il n'y en aura pas assez, et éventuellement, les femmes peuvent ressentir des symptômes. Parmi ces symptômes, il peut y avoir des bouffées de chaleur, de la transpiration la nuit, des choses comme ça. Et là, on va bien sûr chercher d'abord des plantes qui sont progestérone-like, donc qui imitent la progestérone, comme la chémille, le tamisier, le gâtillier, des plantes comme ça. Et puis un peu plus tard dans l'âge, quand les règles se seront peut-être franchement arrêtées, on passera à des plantes œstrogènes-like. Donc on s'intéressera à la sauge, par exemple, qui est une plante qui a soulagé beaucoup de femmes pendant toute l'histoire de l'humanité. On pensera aussi à l'alimentation, à remettre des vitamines et vitamines F, de nouveau en agre bourrache, parce que rien que cela pourrait déjà améliorer ces symptômes.
Parce que, juste pour une précision, par rapport au framboisier et à la sauge, toutes deux sont imitatrices de l'œstrogène?
Alors, il y a des plantes qui imitent les œstrogènes et des plantes qui imitent la progestérone. Alors, le framboisier et la sauge sont des plantes qui imitent les œstrogènes. Oui. Mais le framboisier, c'est plutôt comme régulateur hormonal dans la jeunesse qu'on l'emploie. Oui. Et la sauge, c'est plutôt une plante qu'on emploierait dans la ménopause, voire dans les aménorrhées éventuellement.
D'accord. Et par rapport aussi, donc toujours un peu au désagrément de la ménopause, la sécheresse vaginale.
Alors, pour la sécheresse vaginale, il faut revoir son alimentation, une fois de plus, parce que c'est peut-être pas que la sécheresse vaginale. Il y a peut-être de la sécheresse aussi dans le nez, les yeux, dans la bouche. Il faut voir toutes les muqueuses, comment elles sont. Et généralement, il peut y avoir une sécheresse en eau, pas assez d'hydratation, ou une sécheresse en huile, pas assez d'apport en huile pressée à froid. Ces fameuses huiles qui sont riches en vitamine E, vitamine F, donc les oméga 3, oméga 6, oméga 9. Là, on pense aux oméga 6. Et donc, on s'intéresse justement à l'onagre, à la bourrache, on peut s'intéresser au tournesol. Mais pour que les oméga 6 soient bien absorbés, il faut la présence des oméga 3. Donc, il faut également le colza, l'huile, différentes huiles. Donc, il faut avoir des huiles variées chez soi et ne pas avoir que l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, elle est riche en oméga 3, mais elle est desséchante pour les muqueuses, pour les femmes dans ce groupe d'âge. Donc, il faut avoir des huiles variées, voire... et compléments alimentaires si nécessaire, donc revoir un peu son alimentation. Et au niveau local, on peut aussi ajouter peut-être de l'huile d'onagre. Après, il y a des formules qu'on peut employer pour composer une crème dans laquelle on mettrait justement ces fameuses huiles riches. Et puis, on ajouterait peut-être un adoucissant comme de la camomille ou des choses comme ça. Mais je peux difficilement vous faire la formule au téléphone, donc je me permettrai de vous renvoyer. Oui. Ou bien au Mama Mélis, ou bien à mon ouvrage sur la ménopause et aux réflexions et alternatives aux hormones de substitution.
Merci pour ça. Et puis, une dernière question. Par rapport au moral aussi, donc c'est une femme qui demande des conseils par rapport à la baisse de moral de l'hiver, donc due certainement au manque de lumière. Et ça m'a fait penser aussi à cette question. Est-ce que tu penses que les femmes, ils sont plus sensibles que les hommes?
Et la baisse de moral quand?
L'hiver, dans la période de l'hiver.
Climat.
Oui, par rapport au climat.
Je pense que les femmes et les hommes sont également sensibles aux problèmes du climat. Et c'est vrai que certaines personnes vivent mal une période où il y a trop longtemps un ciel couvert. Ça peut taper sur le moral. Les jours qui se raccourcissent, c'est vrai que c'est pas très stimulant. Mais je crois pas que ce soit sexué, cette question. Je crois que c'est quelque chose qui peut toucher autant les hommes que les femmes. Et donc, pour les personnes qui sont vraiment très sensibles, on peut conseiller éventuellement d'employer une lampe avec une lumière de type solaire qu'on peut installer dans la pièce dans laquelle on travaille, par exemple, pour ramener cette lumière. On peut également penser à l'homéopathie, puis essayer de comprendre la question climatique n'aggrave que quelque chose qui est bien en nous. Donc on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qui est en nous cette dépression qui est aggravée par la saison ou par le climat, et peut-être essayer de travailler ça avec un peu d'aide, évidemment.
Il y aurait un terrain, disons, qui serait plus sensible justement à ce climat et à ce manque de lumière en chacun.
C'est ça, la personne, ouais. En fait, elle a un fond qui est déjà un peu dépressif et elle est plus sensible au changement de climat et aux saisons. Mais il faut qu'elle se penche sur qu'est-ce que c'est ce fond qui est un peu dépressif et qui est aggravé par ces circonstances particulières. Et donc, elle peut faire cela peut-être avec un peu d'aide, peut-être dans une approche psychothérapeutique ou dans une approche homéopathique, ou essayer de comprendre quel est le fond de cette affaire.
Oui.
Depuis quand ça dure, dans quelles circonstances c'est apparu, qu'est-ce qui l'améliore, qu'est-ce qui l'aggrave. Essayer de comprendre.
Oui. Merci Irina, merci pour toutes ces réponses. Et voilà, je voulais te poser aussi la question, si tu as quelque chose là à nous dire, un conseil pour les femmes, pour les jeunes filles qui te viendraient.
Alors ce que je voudrais dire aux jeunes femmes et aux femmes, c'est de ne pas se décourager. On vit une période qui n'est pas très facile et on a encore besoin de se mettre ensemble et de se regrouper pour essayer de gagner notre autonomie et de la défendre. On peut avoir de l'aide auprès d'autres femmes, on peut avoir de l'aide auprès des plantes médicinales, on peut former des groupes et essayer de se mettre ensemble pour faire face aux choses qui nous paraissent parfois difficiles. difficile. Mais le plus important, c'est de garder cette confiance qu'on est finalement capable de se soigner nous-mêmes dans pas mal de circonstances. On a appris à se nourrir, on a appris à se soigner, on a appris parfois à soigner les autres aussi, les enfants par exemple, ou d'autres personnes qui sont autour de nous. Donc il faut qu'on garde cette confiance de ce qu'on est capable de faire. Dans une période où la médicalisation est quand même assez sauvage, autour de la grossesse et de l'accouchement, on vit de nouveau une période où on essaie de nous faire peur et de nous dire qu'il n'y a rien de mieux que l'institution. On vit une médicalisation de la grossesse, une médicalisation de la ménopause, on vit une médicalisation de différents moments de la vie des femmes pour leur faire acheter des médicaments. Donc il est important que nous gardions cette confiance et que nous restions soudés et éventuellement en groupe pour faire face aux situations où on a l'impression qu'on essaie de nous fourguer quelque chose dont on ne voudrait éventuellement pas. Et dans nos rapports sociaux avec les autres, que ce soit avec les hommes ou que ce soit avec les femmes, il nous faut aussi trouver une manière la plus authentique d'entrer en relation en étant le plus proche de nos propres besoins, le plus honnête envers nous-mêmes, en essayant de pas coller à l'autre tous nos doutes et nos incertitudes, en espérant pas non plus que l'autre va nous sauver toutes nos détresses intérieures, oui. Mais en essayant d'être le plus honnête et le plus ouvert possible. Oui. Et peut-être cela nous permettra de grandir encore et de rester des personnes fortes qui parviendront aussi à résister aux poussées de l'extrême droite et aux poussées d'intolérance qui apparaissent dans notre pays.
Oui. Oui, merci pour ce message donc de confiance. Confiance à garder, à nourrir. Eh bien, merci à toi, Rina. Et je voulais te demander si tu veux bien citer les livres dont il a été question, en fait, tout le long de l'interview.
Nous avons parlé au cours de cette interview de Mama Mellis, un manuel de gynécologie à l'usage des femmes. Nous avons parlé également de la ménopause, réflexion et alternative aux hormones de substitution. J'ai mentionné également la sexualité des femmes, racontée aux jeunes et aux moins jeunes. Et je n'ai pas mentionné, mais je m'empresse de le faire à présent, tout de même, mon dernier ouvrage qui s'appelle « Une sorcière des temps modernes, le self-help et le mouvement femmes et santé » pour raconter justement cette histoire, comment les femmes ont perdu leur connaissance sur les plantes à la fin du Moyen-Âge, quand la médecine moderne occidentale naissait, et comment, avec le mouvement de libération des femmes, elles ont appris à se le reprendre, ce savoir, et les changements qui ont eu pendant ces années-là ont été quand même assez importants. Mais malheureusement, ce n'est jamais un fait accompli. C'est quelque chose qu'il faut continuer à défendre et malheureusement les rapports de pouvoir, il faut continuer à y rester attentive parce qu'on s'en débarrasse pas uniquement par incantation ou parce qu'on le souhaite. Et il faut bien garder un œil ouvert sur ces questions.
Eh bien encore merci et puis tout de bon à toi, Rina.
Voilà, alors à vous aussi tous les deux, là-bas, Gis et le gars qui est derrière, qu'on a entendu tout à l'heure, dont je sais pas le prénom.
Ah, c'était Louis, et puis il y en avait même un autre encore, Baptiste.
Voilà, il y en a encore d'autres qui sont arrivés. Alors, bonne fin de matinée à vous, et puis bon travail pour la coupe et la découpe.
Merci beaucoup. Alors, vous pouvez contacter la Bonafama, donc à l'adresse mail suivante, labonafama@mailou.org. Donc merci aussi à notre chère radio RDIWA que vous pouvez retrouver donc au 107.5 FM. Je vous souhaite et je nous souhaite plein de merveilles, plein de confiance aussi et je conclue donc avec cette citation. Le simple écoulement du temps ne suffit jamais à faire apparaître l'aube. Seul le jour auquel nous sommes éveillés est une aube. Le soleil n'est rien d'autre qu'une étoile du matin. Je vous remercie à tous. À bientôt.